Isabelle Morizet. Son fond de commerce est l'insolence élevée au rang de virtuosité et dégainée à la vitesse de la lumière. Hardisson d'ailleurs ne s'est pas trompé, qui ne peut pas faire une émission sans lui. Mais si tout le monde le connaît cynique, certains le connaissent pudique. Ah, c'est là tout le paradoxe de Baffy. Vrai faux méchant et vrai auteur de nouvelles pièces intitulées Toc Toc, a pris possession du théâtre du Palais Royal à Paris. Bonjour.
Bonjour.
En fait, à la télé, un métier que vous avez inventé.
Alors, il faut, si vous voulez me mettre de bonne humeur, oui. Il ne faut pas m'appeler Baffy.
Il faut vous appeler comment ?
M'appeler Laurent.
Alors, simplement, pour que nos auditeurs qui viennent nous rejoindre en cours d'émission sachent où ils sont, Laurent Baffy, j'ai le droit ?
Oui, vous avez le droit, mais Baffy, c'est, je le prends toujours très mal.
Voilà, c'est pseudo, Baffy ?
Non, c'est mon vrai nom, mais après, avec la notoriété, ça vire à...
J'imaginais que c'était un pseudo.
Non, c'est comme une marque, après, et voilà, je préfère qu'on m'appelle Laurent.
Bon, alors, Laurent Baffy, est-ce que vous exercez, à la télé, un métier, finalement, que vous avez inventé ?
Oui.
Hein ? On pourrait le résumer par quelle formule ?
Qui rit dit sniper, mais j'aime pas non plus la formule parce que les snipers c'est des gens qui tirent dans le dos des enfants parfois, donc j'aime pas du tout l'image. Moi j'appelle ça tout bêtement vanneur de plateau. c'est moins concis que sniper, mais voilà, vanneur de plateau.
Il paraît que réanimateur de télé, ça vous plaît aussi ?
Bah, parfois on fait pas de l'animation, dans certaines émissions on fait de la réanimation, c'est vrai. Mais c'est pas moi qui avais lancé la formule, c'est Coluche. Et Coluche, voilà, on est dans son studio aujourd'hui, je suis toujours très très ému d'être dans ce studio.
Vous dites réanimateur de télé, effectivement, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes toujours finalement celui qui est assis dans un coin du cadre, pratiquement jamais celui qui mène l'émission.
Parce qu'animateur c'est un métier, c'est pas le mien, je pourrais peut-être le faire avec un peu plus de bouteilles, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Ou alors dans des cadres très précis avec mes concepts à moi.
Vous avez tenté de le faire.
Oui, mais vendre une émission est un métier, c'est pas le mien. C'est très compliqué, il faut aller lécher le cul de beaucoup de gens.
Il faut d'abord ne pas faire peur au directeur de chaîne.
Voilà, être
vous
formaté.
Faites peur au directeur de chaîne.
Je ne suis pas quelqu'un de formaté, je suis quelqu'un entre guillemets d'incontrôlable, mais je n'ai pas du tout besoin qu'on me contrôle. Je me contrôle très bien tout seul et je n'ai jamais eu besoin qu'on me contrôle. Donc voilà, tout ça sont des peurs aux décideurs. Donc il faut beaucoup d'énergie pour vendre des émissions. Et encore une fois, ce n'est pas mon métier, quoi. Donc je ne sais pas le faire. Donc peut-être qu'un jour... Des gens réaliseront que je suis complètement autonome et que je peux assumer tout seul une émission, et voilà, comme un grand garçon. Mais pour l'instant, de toute façon, j'ai plein d'autres choses à faire et la télé, c'est pas ma priorité, donc voilà, tout va bien.
Il paraît que vous êtes quelqu'un de très très moral, mais l'humour, c'est pas moral ?
Ah si, c'est très moral l'humour. Si,
c'est toujours au dépend d'un autre.
Non, c'est pas toujours au dépend d'un autre, parce qu'on peut aussi beaucoup rire de soi. C'est vrai que parfois, ça peut provoquer des petits malaises, mais ça détend tellement de gens par rapport à ça. Et puis, on n'est pas obligé de laisser les gens avec une mauvaise impression. Alors, bien sûr, il y a des quiproquos, bien sûr, il y a des malentendus. Bien sûr, il y a des gens qui prennent mal des vannes. Ça peut arriver. Mais c'est pas la fonction première de l'humour que de refiler un malaise. Quoi,
alors par exemple, avec l'humour on attire les gens, avec la répartie on s'en protège, ça c'est une vérité dont vous avez pris conscience très très tôt, dans l'enfance.
Ben, la grande école, oui, quand je me suis rendu compte que...
La grande école.
Oui, la grande école à 6 ans.
Que, la jungle qui fait
la jungle, on était moins protégés, et puis c'était le Paris des années 60, le 20e arrondissement, avec... ce que beaucoup de gens appelleraient maintenant, c'était la racaille de l'époque, quoi, et j'en faisais partie.
J'avais envie de dire, justement parce qu'on était dans les années 60, Titi Parisien, mais vous étiez quel genre de garnement dans le 20e, Laurent Baffy ?
Voilà, je ressemblais à un poulbeau. J'étais un petit Titi Parisien, avec mes potes, on faisait que des conneries, on piquait la clé aux pompiers pour faire des geysers l'été dans les caniveaux et faire naviguer nos petits bateaux en bois, des petits titis. Mais la rue, déjà, j'ai eu l'école de la rue, ça m'a appris le contact, brancher les gens, dire des conneries, voir la réaction des gens, ça m'a appris mon métier. Après, j'ai fait des micro-trottoirs, mais j'avais déjà appris tout ça étant enfant. Quoi.
Vous aviez fait vos gammes sur le bitume. Dans votre panthéon cinématographique, on trouve par exemple la guerre des boutons et puis on trouve les 400 coups.
Alors
il y a des, bien évidemment, simplement parce que là on évoque l'enfance, il y a des morceaux de votre enfance dans ces deux films-là.
Absolument. Ah oui, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Et quel était l'autre ?
Les 400 coups.
Bah oui, vous savez, aujourd'hui j'ai fait une pièce et j'ai engagé Claire Morier qui jouait la mère de Jean-Pierre Léaud dans les 400 coups. Il y a des films qui vous marquent à vie et c'est bien après de leur rendre hommage. J'ai également rendu hommage à ce film dans mon premier film, dans La Clé de Bagnole. Il y a aussi Claire Morier qui fait une apparition. Et oui, il y a des choses qui vont marquer à vie.
Mais en tout cas, pas le manque d'amour, parce que c'était dramatique les 400 coups.
Mais c'est pas parce qu'on est jamais un film qu'on a forcément vécu. C'est pas forcément dans la comparaison ou non. J'étais très touché par ce film, cette révélation, le style de Truffaut, Jean-Pierre Léaud, même moi j'étais enfant, mais j'ai vu le style. On n'est pas imperméable aux choses quand on est gosse. Mmh. Et c'était un film extraordinaire. On peut se le repasser maintenant tous
donc
les jours.
Donc c'était aussi une émotion esthétique.
Cinématographique, esthétique, et puis une vraie émotion quand vous êtes embarqué par des personnages et quand on oublie que c'est une histoire écrite. Bon, c'était aussi autobiographique, donc ça rajoute à l'émotion parce que Truffaut a mis un peu toute sa vie là-dedans, toute sa jeunesse. Mais oui, c'était un choc cinématographique, oui.
Quel métier exerçaient vos parents?
Ma mère, elle a fait pas mal de boulot. Elle a été un peu coiffeuse dans sa jeunesse, après un petit peu parfois serveuse, au hasard des... Et puis mon père aussi a fait pas mal de boulot. Mais bon, il y avait une ambiance. Mon père était aussi musicien, donc il y avait une ambiance un peu artistique.
Vous n'aviez que 16 ans quand vous avez quitté l'école. Vous viviez l'école comme une prison?
Oui, une prison longue, hein, parce que j'ai pris...
C'est long que ça, à 16 ans, vous étiez dehors.
Oui, j'ai pris 12 ans quand même, hein, si on compte la maternelle à 3 ans et 16 ans, j'ai pris 13 ans ferme.
Est-ce que vous avez plus fait souffrir vos profs qui ne vous ont fait souffrir?
Je crois que ça a été vraiment les deux. Il y a des profs que j'ai torturés et d'autres qui m'ont torturé.
C'est fort quand même d'arriver à doubler la quatrième et puis hop, prendre la tangente, c'est
non,
ça?
Non, j'ai doublé la cinquième, je crois. J'ai redoublé deux fois, en fait.
Oui.
Et puis, je voulais partir plus tôt et ma mère voulait pas. Alors, on a fait un deal. Elle voulait absolument que je fasse une année en plus. Donc, j'ai fait une année de comptabilité. Je lui ai expliqué que ça ne servirait absolument à rien dans ma vie, que je ne serais jamais être comptable. Mais ça la rassurait que je sois plus à l'école que dans la rue. Donc, j'ai fait effectivement une année comme... pour faire un CAP d'être comptable, j'ai perdu une année épouvantable, quoi.
CAP d'être comptable, oui, je vois.
Oui,
c'est
très
formidable.
Bien, être comptable.
Alors en fait, donc la passion Laurent Baffy qui a dévoré votre adolescence, c'est le cinéma, au point d'ailleurs que vous étiez capable, paraît-il, de disparaître une journée entière dans des salles obscures en enchaînant 3 films.
Oui.
Le cinéma, c'était plus fort que la vie.
Oui, en enchaînant 3 films et puis aussi parfois en restant dans la salle pendant 2 ou 3 projections, parce qu'à l'époque, les films étaient permanents et on pouvait les voir de 14h à minuit.
Voilà, on entrait à n'importe quel moment.
Donc ça m'est arrivé très fréquemment quand un film me plaisait de rester à la séance suivante pour décortiquer. Je fais toujours ça d'ailleurs. Quand un film me plaît, je le regarde une seconde fois immédiatement. Première fois pour le plaisir et deuxième fois pour démonter
et
la mécanique.
Et cette habitude-là, vous l'avez prise vers l'âge de 10-12 ans?
Ouais, ouais. Et puis aussi, quand j'avais pas trop les moyens, je connaissais les cinémas où je pouvais rentrer par la sortie. Donc oui, j'avais des cahiers, j'étais très cinéphile. Enfin, c'était plus vers 15 ans, cette période-là. Et j'allais voir le dernier de Funès, le dernier Berman, j'allais voir un peu
alors,
près
justement,
tout.
Justement, les films qui ont contribué à votre éducation au sens large, au cœur de l'adolescence, sont lesquels?
Il y a eu Woody Allen qui a été vraiment une claque.
Okay.
Mais ça, c'était Annie Hall, chef-d'œuvre absolu. Annie Hall, ça c'est vraiment un film qui m'a retourné, quoi. Je me suis dit, putain, c'est possible de faire ça. C'est pour ça qu'après, dans mon film, j'étais influencé par Annie Hall, parce que on peut se permettre des choses. On peut tout se permettre, mais simplement on n'a pas l'info, on ne sait pas. Donc on suit un schéma traditionnel, mais c'est une connerie, on peut tout se permettre.
Là vous dites dans mon film, c'est-à-dire l'unique à ce jour
voilà,
que vous avez réalisé,
l'influence de Woody Allen, surtout de Annie Hall. Sinon évidemment il y a Audiard dans le Panthéon, il y a les Monty Python, et puis il y a des films un peu de... Par exemple il y a un Belmondo par-ci, un truc par-là, il y a un peu de tout, quoi. Mais j'aime beaucoup le cinéma français.
Alors quitter l'école à 16 ans, c'est tôt quand même quand tu n'as aucun métier.
Pour moi, c'était tard parce que je me serais bien barré 10 ans plus tôt, hein, franchement.
Livreur, groom, barman, vous l'avez été combien de temps?
Livreur, j'ai fait livreur une matinée, c'est-à-dire que j'avais une mobilette, je me suis fait embaucher, on m'a donné un pli, j'ai pas trouvé l'adresse, j'ai galéré pendant 2 heures, je vais retourner à la boîte, je leur ai jeté leur pli dans la gueule et je me suis barré. Donc livreur, ça n'a pas été très long. Et puis, les autres, c'était plusieurs semaines, rarement plusieurs mois.
Rarement, j'imagine.
Oui.
Mais Laurent Baffy, puisque le cinéma était une passion véritable, pourquoi vous ne vous êtes jamais fait embaucher comme assistant, par exemple, sur un tournage?
Parce qu'il y avait
il y a des carrières
cinéma,
de metteurs en scène qui démarrent comme ça.
Il n'y avait pas que le cinéma qui était une passion. J'avais la passion des comiques, je sentais confusément, je voulais faire ça, je ne savais pas comment l'exprimer. Et j'avais des idoles très très fortes comme Coluche ou Gainsbourg. Mais je m'auto-censurais beaucoup. Et parce que j'avais peur de rencontrer ces gens-là, et surtout je ne voulais pas les déranger. Et j'imaginais déjà bien qu'ils devaient être... harcelé, et je voulais pas être mis dans le même sac que les autres. Moi, j'avais une sorte de pureté, je les aimais vraiment pour ce qu'ils étaient, et je voulais pas être considéré comme un fan. Je me suis plus isolé qu'autre chose, et j'ai perdu du temps parce que j'aurais dû me rapprocher de certaines équipes plus tôt pour faire mon métier plus tôt. J'ai commencé à vivre de mes sketchs à mes textes à 25 ans. Je pense que j'aurais pu faire mon apprentissage plus tôt.
Mais vous souhaitiez être comédien au départ.
Au départ, je voulais être comédien. Mais après, j'ai vu que j'étais nul, donc...
Comment on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça?
Parce que j'étais très cinéphile, et très admiratif des comédiens, donc je voyais bien que j'étais pas bon. Et puis un comédien, c'est quelqu'un qui peut pleurer sur commande, rire sur commande.
Pas vous.
Et moi, je suis incapable de faire ça. Et puis je me rendais compte que j'étais pas bon, quoi. J'avais ce recul.
Alors, pas bon. Vous faisiez de la figuration. Hein. J'ai appris quand j'ai 17 ans.
Avec les Carpentiers.
Voilà, vous, c'est très bon filon d'ailleurs. Vous en gardez quel souvenir? Des plateaux à paillettes et des corps de carton-pâte de
Maritime. J'en garde des souvenirs émus. C'était pas toujours facile parce qu'on était considérés comme le bétail, la piétaille. Mais bon, avec le recul, c'est drôle de savoir que j'étais en costume derrière Tino Rossi ou
voilà,
Marie Mathieu.
Voilà, le plus surréaliste. Ou en
poilu derrière Tino Rossi, les gens n'imaginaient pas que j'ai
ça dans les trésors de Lina.
Je les ressentirai un jour, je sais où sont les trésors, je les sortirai un jour. Et puis aussi, il y a des souvenirs émus, parce que vous êtes témoin privilégié de choses qui ont marqué la France. J'ai entendu Renaud chanter en premier sa chanson « Laisse béton », personne ne connaissait, et on était tous sidérés. Balavoine pour la première fois, bon, dans un truc un peu plus anecdotique, mais Plastic Bertrand qui a chanté sa peine pour moi avec les cadreurs qui n'arrivaient pas à le suivre tellement ils couraient partout. Enfin, j'ai vu des choses étonnantes.
Mais vous alliez leur parler?
Non.
Vous étiez...
Non.
Mais dans votre coin, observateur.
Oui, observateur, et puis encore une fois, je n'osais pas les déranger, et puis... Non, je m'auto-censurais beaucoup. Et puis pour leur dire quoi? Pour leur dire... je ne sais pas quoi leur dire, en fait, à part que je les admire et tout le monde pouvait leur dire ça mieux que moi, donc non.
Vous avez beaucoup couru les castings?
Pas beaucoup, parce que je trouve ça très humiliant. Et maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière et je fais des castings.
Oui.
Je le vis très très mal. C'est-à-dire que je ne le vis pas mieux maintenant que je suis décideur, parce que je trouve que l'humiliation reste la même. Les gens se déplacent, misent beaucoup, sont pas toujours bons parce qu'il y a le trac, ils attendent une réponse. Je trouve ça très très dur, les castings.
Est-ce que précisément il y a eu un jour où vous avez réalisé que vous alliez réussir, mais autrement?
Oui, et c'était un mardi.
À quelle heure? Non, mais les prises de conscience, les déclics.
Mais ça s'est
fait... existe ou c'est quelque chose vraiment de confus
non,
qui monte comme
fait...
ça?
Ça s'est fait doucement, mais après on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Moi, j'étais un auteur sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que tout petit à l'école, mes rédactions étaient lues, relues, même si j'étais élevé d'un petit canard, le cancre, j'avais quand même des points forts, je savais raconter des histoires, j'avais beaucoup d'imagination.
Mais dans un premier temps, vous n'aviez pas envie de devenir un auteur?
Non, mais il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'on m'a proposé d'écrire des textes pour la radio, mais les gens qui m'ont proposé ça avaient lu des lettres que j'avais pu écrire, ou ils avaient déjà lu des trucs de moi, donc on ne me l'a pas proposé par hasard, et puis j'ai écrit des dramatiques pour France Inter au début, j'en ai vendu pratiquement tout de suite, même si j'apprenais le métier sur le tas, donc j'étais long à faire ça, mais j'ai bifurqué doucement vers l'écriture, puis après le sketch, et ça s'est fait presque naturellement.
Alors vous dites, en fait, j'ai perdu pas mal de temps au début de mon histoire, c'est-à-dire
oui,
que
ce que j'ai perdu,
combien d'années selon vous?
Écoutez, j'ai peut-être perdu rien que de dire ça, parce que ces 10 ans, je les ai utilisés à faire des choses, et ça m'a nourri, et puis si j'avais écrit plus tôt, j'aurais peut-être pas vendu mes textes, donc voilà, les choses arrivent quand elles arrivent, mais bon, j'ai eu le sentiment d'avoir galéré un peu trop quand même. La vache enragée a duré plus longtemps que prévu quand même.
Il est possible le café, Laurent Baffy?
Non, c'est du thé, non, il est immonde, mais je vais le boire.
Ah bon, tant pis, j'espère que vous ne tomberez pas malade, parce que je compte sur vous, on se retrouve dans quelques instants. Puisqu'on est avec nous l'homme qui dégaine plus vite que son ombre et qui assassine par petites touches d'humour acide et le visage d'ailleurs toujours impassible, les invités d'Ardisson qui en prendraient trop à leur aise, on va en profiter pour explorer sa méthode. Laurent Baffy, pour être le roi de l'aïkido verbal, est-ce qu'il faut de l'entraînement?
Beaucoup.
Sérieux?
Oui, bien sûr, il faut faire ses gammes en permanence. Bien sûr, c'est pas des illuminations, ça ne traverse pas les pas, ça peut arriver, mais bon, c'est aussi une technique, une habitude, une tournure d'esprit, et puis
technique, habitude, tournure d'esprit pour être vanneur professionnel, c'est-à-dire le plus drôle possible dans le moins de temps possible.
Absolument.
On s'entraîne comment?
La conjugaison des deux facteurs est le plus juste des trois facteurs, la justesse, la rapidité et la drôlerie.
Alors ça se travaille comment ça?
Bah déjà, je voudrais souligner que quand je fais des mauvaises vannes, Thierry a la gentillesse de les couper au montage. Donc il faut pas, je suis beaucoup moins drôle qu'on imagine.
Voilà, c'est avec filet.
Voilà, c'est avec filet. Bah ça se travaille, moi j'ai une sorte de scanner, maintenant d'abord j'ai des tiroirs avec des vannes qui existent, et puis j'ai...
vous avez votre petite banque de données perso.
Oui, j'ai une banque de données perso, et puis j'ai les nouvelles vannes, et puis quand quelqu'un parle, je scanne un peu ce que la personne dit, une fois que j'ai compris le sens de la phrase, je commence à chercher, ce qui fait que souvent je dis de terminer sa phrase. Mais moi je sais déjà depuis 4 ou 5 mots ce qu'elle va dire la personne.
Mais c'est une technique en fait, il y a quelque chose d'obsessionnel là-dedans.
Oui,
parce que c'est un travail permanent, c'est 24 heures sur 24.
Absolument, c'est pas de tout repos. Et ça
à la maison, avec les potes.
Machine, absolument.
Alors, puisque la rapidité c'est votre signature, il paraît que sur le plateau de Tout le monde en parle, il y a une caméra qui est braquée sur vous en permanence pour capter vos répliques, parce que ça va si vite qu'on n'a pas le temps de vous cadrer. Ça, c'est une légende.
Alors, il a fallu attendre 10 ans avant que j'ai eu droit à ma caméra, parce que souvent, j'étais pas filmé ou alors on m'entendait pas. Alors souvent, on me dit, mais j'ai pas entendu, tout le monde riait, mais j'ai pas entendu votre vanne. Donc, c'est vrai que la rapidité
une,
aussi.
Les clics de la blague qui tirent plus vite que
les gens sont pas sur le coup. Oui, c'est vrai.
Donc un beau jour, Thierry vous a dit, alors voilà, ça, la caméra, c'est pour toi, elle est là, sans cesse.
10 ans après, Thierry a vu que j'étais rentable, donc il a investi dans une caméra, voilà, pour moi.
Est-ce que vous êtes prêt à tuer Père Hébert pour un bon mot, comme la plupart
bien
des
sûr,
humoristes?
Bien sûr, comme tous les humoristes, bien sûr.
Bien sûr.
Bah oui, parce que c'est la vanne pour la vanne, alors après on regrette, on dit merde. Mais moi, où je suis très emmerdé, c'est quand j'ai pu faire de la peine, mais c'est vrai que parfois, la technique est plus forte que la morale. Ça peut arriver, oui. On est tellement fiers.
Tout à coup, il y a le salto arrière, le double axel de la vanne.
Voilà,
on se dit, allez, j'y vais pas.
Voilà. Et... Oui, puis il faut prendre des décisions très, très vite. Alors après, on regrette d'y avoir été ou on regrette de ne pas y avoir été. C'est très compliqué.
Mais généralement, le réflexe, la machine prend le dessus, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que quand la vanne est bien...
Surtout quand on est payé pour ça, ce qui est le cas de tout le monde.
Même quand je suis pas payé, parce que c'est un vice, quoi. C'est nature, donc... Mais c'est sûr que c'est, comme tous les humoristes, on tuerait parfois père et mère pour faire un bon mot, oui.
Alors, la fameuse phrase de Desproges, elle n'est pas si juste que ça. Il y a quand même des zones, par exemple, où vous refusez de vous aventurer, vous.
Moi, personnellement, oui, mais Desproges, sa phrase est quand même très
juste. On peut rire du tout, mais pas avec n'importe qui.
Oui, sa phrase est formidable, comme beaucoup de phrases qu'il a pu dire.
Mais ce n'est pas exactement ce que vous appliquez.
Non,
on ne peut pas rire de tout.
Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Moi, personnellement, il y a des terrains sur lesquels je ne vais pas. Mais si quelqu'un d'autre y va, je peux être choqué ou amusé. Tout dépend comment c'est fait. Quand Desproges disait des trucs qui me semblaient invraisemblables, il le faisait avec tellement de talent, tellement de drôlerie que ça passait. Mais n'est pas Desproges qui veut.
Alors, ma fille, sur votre échelle de Richter à vous de la méchanceté, vous dites que finalement vous ne trouvez pas si redoutable que ça. Alors pourquoi vous faites si peur aux invités d'Ardisson?
Bon, je ne pense pas faire peur à tous les invités d'Ardisson.
La plupart, et vous êtes là pour ça.
Oui, et puis vous savez, les invités ont très peur de Thierry également. Ils ont aussi très peur de l'émission. Ils ont très peur que la promo se passe mal parce que c'est
généralement,
c'est stressant.
Ils ont aussi peur que ça.
Oui, c'est stressant de faire une émission, surtout une émission importante, surtout quand il y a des enjeux commerciaux. Et puis, quand les gens ont fait un travail, moi je sais bien ce que c'est maintenant.
Quand ils viennent par exemple présenter
quand
un film,
présente
un album.
Son travail, c'est on attend, on a travaillé seul, puis on attend le regard des autres, le jugement, c'est anxiogène tout ça, donc je comprends que les gens flippent. Et puis moi aussi, je ne vais pas aussi nier ma mauvaise réputation, j'ai tout fait pour l'avoir. Quelque part, je suis content de l'avoir aussi, donc il y a certaines personnes... je suis content que ces personnes flippent un peu, voilà, ça m'amuse aussi parfois.
J'ai envie de dire des noms.
Bon, plus les hommes politiques qu'autre chose.
Ouais, j'imagine. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée dans la technique de l'humour, c'est l'impassibilité phénoménale du visage. Le pire
pas toujours.
Mais les traits sont immobiles.
Pas toujours, il peut m'arriver de sourire. Non, mais j'aime pas le principe de rire de soi-même. J'attends qu'on rit de moi avant de m'autoriser à le faire. Mais bon, ils peuvent rire de moi, il m'arrive souvent de me trouver très drôle, hein, même si souvent je me trouve très nul aussi. Mais je sais pas, ça me gêne un peu de rire immédiatement de ces blagues.
Quels sont ceux qui n'ont accepté de venir sur le plateau, donc de Tout le monde en parle, qu'à la condition que vous ne soyez pas sur ce plateau?
Oh bah, il y en a pas mal.
Ça arrive fréquemment?
Régulièrement. Mais comme on va les balancer, ça va arriver de moins en moins. Ah, il y a Edouard Balladur.
Oui.
J'ai vraiment regretté de pas être là parce que j'aurais bien aimé...
Mais c'était la condition sine qua non.
Sine qua non.
Je viens si Laurent Baffy n'est pas là.
Absolument. Alors bizarrement, il y a eu des stars internationales comme George Michael. Alors, je sais pas si qui lui a parlé.
C'est la maison de disques qu'il a terrorisé. Oui.
Plus récemment, Robbie Williams a demandé que je sois pas là aussi.
Et alors, quand Thierry Ardisson doit vous faire ce genre de demande express,
et
il s'y prend comment?
Et puis, une fois aussi, l'hôtesse de l'air qui a eu un enfant avec Albert de Monaco a demandé à ce que je ne sois pas là. Et puis, finalement, j'étais content de ne pas être là parce que j'ai trouvé cette interview tellement pitoyable.
Pour quelle raison?
Et indigne de l'émission. Parce que la production a cédé à toutes ces conditions, que ça n'avait strictement aucun intérêt, et j'ai trouvé ça indigne de l'émission. Même je pense que Thierry a regretté d'avoir cédé à ce chantage.
Vous lui avez dit tout ça?
Bien sûr, je lui ai dit.
Et comment il le prend, lorsque vous, le complice,
on peut se dire des choses, c'est entre potes, on ne peut pas se dire des choses, voilà, chacun a son avis, et puis on c'est pas une engueulade, voilà, mais moi j'ai trouvé ça. Je lui ai dit, je pense que là vraiment, on a touché le fond, quoi.
Alors, quand on est le roi du rire à l'oral, comment on se débrouille pour l'écrit, puisque vous êtes un auteur de théâtre tous les soirs, au Théâtre du Palais Royal, à Paris, en ce moment, on joue du Baffy, on joue Toc Toc, d'ailleurs c'est assez drôle, on dirait un titre de Jules Romain, d'une pièce de Jules Romain, Toc Toc. Donc, passer comme ça, de la technique du rire à l'oral à celle du rire à l'écrit, ça vous est très aisé?
Non, l'écriture n'est pas une chose facile. Il y a une phrase de Paul Morand que j'adore qui disait « Je déteste écrire et j'adore avoir écrit. » Et c'est vraiment ça, ça résume toute la difficulté de la page blanche. Mais c'est vrai que quand on arrive à bout d'un projet, surtout ambitieux comme l'était cette pièce pour moi, on est très très fier. C'est mon cas.
Qu'est-ce qu'il avait de particulièrement ambitieux ce projet-là? Par exemple, par rapport à la pièce précédente.
La pièce précédente, c'était une pièce populaire où je parlais des dessous de la télé. J'étais dedans, j'étais chauffeur de salon assez à l'est. C'est un milieu que je connaissais bien. Là, il y a quand même, je parle des TOC, des troubles obsessionnels et compulsifs. Je me suis énormément documenté. Même si je fais beaucoup rire avec cette pièce, il y a derrière tout ça, derrière tous ces cas, il y a énormément de souffrance. Et je voulais pas me foutre de la gueule des malades. Et je pense que les gens qui viendront voir la pièce en seront d'accord. Il y a beaucoup d'empathie pour les personnages.
Il y a beaucoup d'empathie pour les personnages qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs parce qu'il y a peut-être un tout petit peu d'autobiographie là-dedans.
Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai une théorie sur les TOC. Je pense que tout le monde en a. Mais comme ça confine à la folie, côté toc-toc, maboule, les gens n'en parlent pas.
On est à la lisière de la folie.
Voilà, les gens n'en parlent pas par pudeur, mais tout le monde a des tocs. Quand j'ai des conversations avec les gens, je leur demande s'ils ont des tocs ou pas trop et tout, et puis après, ils disent « Ah oui, non mais je fais pas ça, ou alors je marche pas là, ou alors... » Et je pense que tout le monde a des tocs. D'ailleurs, sur l'affiche, il y a un slogan, on dit 93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un toc, et vous. Et c'est un vrai chiffre.
Donc à vos yeux, derrière la manie, derrière le trouble du TOC, ça révèle quoi de plus profond chez ceux qui en sont atteints?
Je ne suis pas médecin, même si j'ai discuté avec des médecins aussi pour écrire cette pièce, je ne suis pas médecin, mais moi, je pense à mon petit niveau, c'est mon petit raisonnement, je ne veux pas expliquer ce que sont les TOC. C'est ma théorie à moi, je pense que les TOC, c'est un truc qu'on peut choper dans l'enfance pour se rassurer. Ce sont des cérémoniaux qu'on s'invente pour se rassurer, pour gérer des angoisses qui sont ingérables. Et chacun, après, fait son petit business, sa petite cuisine avec ça.
Sexe, magouille et culture générale, votre pièce précédente, donc, avait triomphé en débordant totalement des cadres habituels du théâtre.
Alors, 500 représentations.
Je lis, Laurent Baffy. Cette fois-ci, avec Toc Toc, il faut se préparer à quel genre de voyage?
Un voyage intérieur.
Pour le spectateur.
Puis, d'abord, je veux pas que la profondeur du sujet soit au détriment de la drôlerie. J'ai bien capté que les gens ont pris l'habitude de rire avec moi et je veux pas leur faire le coup et revenez tous se prendre le chou et on va...
C'est tout à fait lisible dans le titre. Non?
Pas forcément. Mais donc je veux rassurer les gens parce que je veux un quota de rire, je veux vraiment, et vous savez que je donne des fiches. J'ai trouvé un truc incroyable que je ferai toute ma vie.
Vous continuez.
Je continue ça. C'est un institut,
vous
un
faisiez
institut
ça déjà dedans.
De sondage incroyable. Et c'est un outil de travail inouï. Les gens remplissent une fiche, ceux qui veulent. Tous les gens qui viennent au théâtre, on leur donne une fiche. À la fin, ils remplissent la fiche. J'ai environ 15% ou 20% de retour. Et j'ai une petite centaine de fiches à lire tous les soirs. Et c'est précieux à un point que vous n'imaginez pas.
Oui,
et
là, au point de remanier justement
bien sûr,
la mise en scène.
Je remanie tout le temps. Je rajoute des gags, je transforme les points faibles en points forts. Quand il y a un ventre mou, je travaille dessus pour que ce soit un point fort.
Mais Laurent Baffy, c'est du théâtre interactif, là, dont vous nous parlez.
Évolutif dans un premier temps. Et interactif, oui, parce que je veux beaucoup moins interactif que la première pièce, mais l'interactivité est aussi une donnée dont je ne veux pas me séparer parce que c'est très très important.
Alors, de Marie-Lou Berry, la fille de Josiane Balasco, à Daniel Russo, qui est éblouissant aussi. Bon, vous êtes offert un casting de rêve.
Ouais, on va tous les citer parce que il faut absolument le faire. Donc, Daniel Russo, qui est vraiment... Bon, j'ai écrit pour lui, j'ai écrit en espérant qu'il accepterait le rôle parce que on a beau être amis, il a aussi d'autres choses à faire et je suis très content qu'il ait accepté. Je crois que lui aussi se sent très bien dans ce rôle. Et bon, je vais pas en faire des tonnes. Faut venir voir ce mec et vous allez voir ce que c'est que l'abattage d'un comédien. Il est étonnant. Claire Morier, donc qui joue la mère de Jean-Pierre Léo dans Les 400 coups. Formidable. Bernard Deran, 35 ans de comédie française.
Tout de même.
Je lui ai dit, viens mener ta carrière avec moi. Sophie Monico, Marie-Lou Berry, Yvon Martin, Marie Cuvelier, j'espère que je n'oublie personne.
Vous auriez pu peut-être figurer à l'affiche. Alors, puisque votre vocation première, c'était justement jouer la comédie, comment vous résistez à la tentation de vous donner un rôle? Vous avez écrit, vous avez mis en scène, mais vous ne montez pas sur scène.
Je pense que ma pièce est de qualité. Je paye avec un mauvais acteur.
C'est carrément ça.
C'est carrément ça. Et puis, je suis très fier de faire la mise en scène et c'est un vrai travail. Pas facile nerveusement, hein, parce que quand quelqu'un tousse sur un effet ou quand un acteur rate un truc, je deviens fou. Je comprends que Jean Poiret fait un infarctus. Parce que...
Vous êtes un metteur en scène maniaque.
Je suis un ayatollah, je les emmerde
un peu. Vous n'imaginez pas,
mais un effet qui est perdu ne se rattrape pas. Voilà, un rire perdu ne se rattrape pas. Les gens qui ont... Il y a des choses formidables qui sont parfois... Bon, évidemment, il y a plusieurs centaines d'effets, mais régulièrement, tous les soirs, il y en a 4 ou 5 qui passent à la trappe.
Tous les soirs en coulisses, la pièce a démarré le 13 décembre, premier lever de rideau. Donc tous les soirs, vous les briefez?
Bah, je les briefe et puis je prends des notes tous les soirs. Il y a des briefings après. Non, la nuit, je pense qu'ils rentrent chez eux, ils achètent de la pâte à modeler, ils font une statuette à mon effigie
et ils enfoncent des aiguilles. Voilà.
Mais bon, c'est comme ça que je travaille et puis c'est pour le bien de la. Parce que au départ, il y a l'écriture. Alors après, on va plus écrire. Donc il faut commencer les répètes. Donc pendant les répètes, je changeais les trucs. Et puis après, il faut le public. Et tout est décalé, parce que là, il y a des rires, là, il y en a plus qu'on prévoyait, là, ça aussi, ça fait rire, ça, faut décaler, parce que le Donc, je réécris la pièce, donc les comédiens, Bernard Deran, qui a fait 35 ans de comédie française, quand il jouait du Shakespeare ou du Molière, l'auteur n'était pas là, l'auteur était décédé depuis 200 ans déjà.
C'est pratique.
Alors, il était un peu étonné de voir quelqu'un qui réécrivait la pièce pendant les premières semaines, mais voilà, je travaille comme ça.
Est-ce que le public qui vient voir le théâtre de Laurent Baffy est celui qui le regarde le samedi soir sur France 2?
Oui, mais pas forcément. Il y a des gens qui se laissent entraîner. C'est là où les fiches sont précieuses, parce qu'on sait tout, quoi. Beaucoup de gens qui ne sont jamais venus au théâtre. Les gens ont peur du théâtre. Les gens ont très très peur du théâtre. Ça représente la culture, l'ennui pour beaucoup de gens. Et puis c'est hors de prix, le théâtre. Une place coûte 40 euros, on ne peut pas y aller en famille. Enfin, c'est vraiment un investissement qui fait peur, parce qu'on a peur de s'emmerder. Et puis ça coûte la peau du cul. Et moi, ce que j'adore, c'est... faire venir des gens qui sont jamais venus au théâtre et puis qui repartent super heureux. Et ça, je trouve que c'est magnifique.
Laurent Baffy, vous êtes de ceux qui, parlant de cinéma, peuvent dire « Le prix du rêve, je le connais ouais. ». Est-ce que votre banquier s'est remis de l'échec de l'unique film à ce jour que vous avez réalisé, donc « Les clés de la bagnole », qui avait tout pourtant pour devenir un film culte?
Oui.
Il le sera d'ailleurs peut-être sur la durée.
Je pense, oui. Beaucoup de gens disent que c'est un film culte. Pour moi, c'est le premier film culte que personne n'a vu. Ce qui est encore plus drôle.
Voilà.
Mais il y a des gens qui travaillent pour moi. Il y a des ambassadeurs du film. Pour ce qui est du banquier, à l'époque, j'étais avec un banquier qui était vraiment un sale con, ce qui peut apparaître comme un pléonasme. Et je me suis insulté parce que je cherchais des sous pendant que je
vous tourniez.
Et je passais des coups de fil entre les prises pour chercher de l'argent que je n'ai jamais trouvé.
Ah, c'est pour ça qu'il y a eu deux interruptions pendant le tournage.
Oui, j'aurais mieux fait de me concentrer sur le film. Donc, nerveusement, c'était un peu difficile. Et tant qu'on tournait, on était vivant. Donc, je voulais pas arrêter. Puis, je payais tout le monde. Je voulais pas escroquer des gens pour réaliser mon rêve. Donc, j'ai payé tout le monde. J'ai planté personne. Ce qui a aussi forcé l'admiration de certaines personnes du cinéma. Parce que j'ai fait ça tout seul, en dépensant de l'argent que je n'avais pas et que j'ai payé par la suite. Et voilà.
Et que vous n'avez pas récupéré avec, hélas, des entrées.
Peu importe, parce que je préfère avoir fait un film qui va faire son chemin sur la durée. Je préfère avoir fait un film qui n'a pas été trop vu, mais dont les gens parlent bien, que d'avoir fait un film qui a fait 1 million d'entrées. J'aurais adoré faire 1 million d'entrées. Mais c'était un film d'auteur un peu intimiste. C'était pas un film si populaire que ça. Et donc, je sais que le film, les gens continuent à parler. Il y a des aficionados du film, des gens qui le défendent.
Alors,
et puis,
vous, Voulant en Bafi, depuis le montage financier du film jusqu'à sa sortie en salle et puis aux critiques, qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette expérience? Vous le
dix mille choses, et puis vous savez, rien ne remplace une première fois. C'était mon premier film, et des erreurs que je ne recommettrai pas, et puis je suis riche de cette expérience-là.
Oui, mais comme des erreurs, je ne vous entendrai rien second.
Oui, bien sûr, c'est pas tellement des erreurs, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de strates dans mon film que je voulais pas l'expliquer à tout le monde, j'avais pas ni le temps ni l'énergie, donc beaucoup de gens sur le plateau ne comprenaient pas ce que je faisais, c'était très problématique. En plus, j'arrivais le matin, il y avait des gens, la moitié de l'équipe, j'avais pas envie de voir, parce que je m'entendais pas avec eux. Il faut...
Un petit côté moquille quand même, hein, Laurent Baffie.
Il faut 2-3 ans pour constituer son équipe, il faut 2-3 films, 4 films, c'est pas au premier film. Quand vous avez 3 têtes de cons, et je devais être une tête de con pour certains techniciens, que vous n'avez pas envie de voir, qui ne comprennent rien, ça vous met pas forcément aussi de bonne humeur. Plus tous les problèmes, mais bon, c'était quand même une aventure incroyable, une des plus belles aventures de ma vie. Je cherchais du fric, je jouais, je tournais dans mon film. Le soir, je courais pour jouer au théâtre. J'ai vécu 10 vies en même temps pendant cette période.
Vous étiez offert pour ce film l'affiche la plus dangereuse jamais collée sur une colonne Maurice. Hein. En gros, le slogan c'était, vous pouvez nous le rappeler?
N'y allez pas, c'est une merde.
Voilà, voilà. Donc il faut toujours se méfier du premier degré, Laurent Baffi. Le premier degré, ça tue.
Mais moi, ça m'a pas tué. Ce qui m'a tué, c'est...
J'imagine que si vous avez tenu d'ailleurs par contrat...
Je vais vous expliquer.
N'est-ce pas, à cette affiche-là, c'est qu'elle vous plaisait furieusement. Mais il paraît qu'il y a beaucoup... Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de vous en dissuader.
Tout le monde, y compris mes amis, Jean-Marie Bigard, tout le monde m'a expliqué que c'était pas bien. Sauf que moi, je trouvais que c'était très bien. Je suis très fier de l'avoir fait. Et puis mon film, c'est un film d'auteur. Vous savez, si j'avais fait 500 000 spectateurs, j'aurais été le plus heureux des hommes. J'en ai fait 200 000 et je suis sorti à Noël entre Nemo, Kill Bill et Les Seigneurs des Anneaux. Le film s'est fait virer au bout d'une semaine, il n'y avait pas de place, donc il n'a pas pu faire son travail. Mais c'était un film d'auteur, c'était pas un film, un grand spectacle. Et puis ce slogan faisait partie du film. Et c'est quelque chose qu'on peut faire une fois dans sa vie.
Il envoyait des signaux au public que vous vouliez cibler?
Et puis ça raconte aussi le film. C'est-à-dire que le problème de ce slogan, c'est qu'il faut avoir vu le film pour le comprendre.
Ah, aïe.
Mais voilà, moi je pense que les gens ne sont pas bêtes et que les gens font la part des choses et je prends pas les spectateurs pour des cons. Et puis faire 200 000 entrées avec ce slogan, c'est pas si mal. Et si j'avais sorti le film dans une perfée, les 300 ou 400 000 entrées que je devais faire.
Le synopsis du second film, il est déjà dans un coin de votre tête?
Oui, oui.
Parce que le premier, on lui a reproché de ne pas avoir de scénario, pas d'histoire.
Oui, c'était une non-histoire. Non-histoire. Mais il y a une histoire dans le deuxième.
Ah, bon, très bien. Et la première fois que vous direz moteur pour l'aventure du second film, ce sera quand à peu près?
Ben ça, on peut pas. Il va falloir que je fasse des tours de table, puis le scénario n'est pas encore écrit. Pour l'instant, j'ai une cinquantaine de pages. Mais vous savez, je vais faire comme je fais d'habitude. Si je trouve personne pour accepter de faire ça, ben je vais le produire. Ma pièce, malgré le succès de Sex Magouille et Culture Générale, j'ai fait la tournée des plus grands producteurs parisiens et tout le monde me l'a refusé, toc toc. Parce que c'est pas facile aussi de dire quelque chose, mon travail n'est pas achevé, puisque je continue de l'écrire plus tard. Mais bon,
mais la première pièce du théâtre, elle a pourtant fonctionné à Paris, comment tourner?
Donc là, je produis également toc toc, enfin je coproduis avec Francis Nani, le directeur du Palais Royal. Donc si vous voulez, j'en suis pas encore à un stade où les gens m'appellent pour me demander est-ce que tu as des projets, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Je continue à faire, à produire les choses, ce qui me permet aussi, ce qui est très risqué, mais ce qui me permet de décider. J'ai pris des mauvaises habitudes, j'ai envie d'être libre.
C'est la garantie d'indépendance. Alors on va passer du grand au petit écran. Elle vous ennuie la télé aujourd'hui, Laurent Baffi?
Pas plus que quand j'étais gosse. Et l'avantage de maintenant, c'est que quand j'étais gosse, il y avait une chaîne en noir et blanc. Et maintenant, chez moi, j'ai 400 chaînes.
Vous avez 400 chaînes, mais il paraît que vous n'en gardez pratiquement qu'une, c'est National Geographic.
Animaux, National Geographic. Non, non, je suis un gros zappeur. Hein. Je regarde un peu toutes les chaînes.
Oui.
Mais c'est vrai que ces deux chaînes-là, je les regarde beaucoup.
Elles chauffent, ces deux chaînes-là. Oui. Alors, vous avez parlé de la chaîne Animaux. Cet intérêt immodéré pour tout ce qui peut vivre en pleine nature et puis qui appartient au règne animal, il vous vient d'où?
Il me vient de documentaires animaliers que j'ai vus dans l'enfance, Frédéric Rossi, Christian Zuber. Puis, par la suite, je me suis amusé à mettre un nom sur tous les animaux que je voyais. Et je détestais les documentaires où ils ne disaient pas le nom des animaux. Et puis voilà, j'ai mis mon nez là-dedans, et puis après je me suis mis dans les livres, et après ça a été l'engrenage.
L'engrenage. C'est-à-dire que, encore un peu, vous allez nous dire que vous avez raté votre vie parce que vous n'êtes pas devenu zoologue.
Ben, je suis un petit peu à ma façon un petit zoologue. J'ai quand même beaucoup d'amis dans ce domaine. Quand je vais voir le vicomte de la Panouse et qu'on parle du fait que l'autruche soit didactyle et l'émeute tridactyle, on a des conversations un peu surréalistes. et puis j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce domaine.
Alors c'est dangereux parce que je me suis laissé dire.
De la chaîne Animaux, Frédéric, ah, oui. On se fait des dîners, de quiz, on est. Non. Je suis vraiment passionné. Par
c'est dangereux, je me suis laissé dire que vous étiez le visiteur le plus régulier du zoo de Thoiry. C'est vrai.
Régulier, non, mais j'y vais régulièrement, quand je peux, quand j'ai du temps, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, spécialiste même, puisque votre bibliothèque, elle est dévorée par les rayons de livres animaliers, dont certains sont rédigés donc par des spécialistes, avec tous les noms en latin,
grec,
en
latin. Grec. Les racines grecques et latines sont très importantes, et la zoologie ramène à tout, et puis rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait Lavoisier. C'est-à-dire que quand vous apprenez des racines grecques et latines, ben, ça vous sert dans la vie de tous les jours. Et puis, ça vous sert parfois à comprendre des mots qu'utilisent les intellectuels et certaines personnes utilisent la culture comme une arme définitive pour écraser les autres. Et puis, on se rend compte qu'avec trois racines grecques et latines, on peut comprendre deux, trois connards qui se la pètent. Et c'était aussi une arme pour
lutter. Alors, avec cette éthique-là, Murbafi, et la passion que vous avez, c'est pas les clés de la bagnole que vous auriez dû tourner, c'est l'ours.
Mais j'ai dans mes tiroirs aussi des projets avec plus de zoologie, mais je mets toujours de la zoologie dans mes films. Dans le prochain, ce sera pas un film sur la zoologie, mais il y aura quand même, le héros sera un hérisson quand même. Donc.
Vous êtes le fils spirituel de Bougrain-Dubourg.
En tout cas, je crois être son ami.
Quand on adore les animaux à ce point, est-ce qu'on n'a pas une toute petite tendance à être peut-être misanthrope?
Bien sûr que si. Mais bon, en même temps, faut pas tout idéaliser parce que les animaux sont pas toujours meilleurs que les hommes et les animaux aussi sont.
On va pas tomber dans la caricature, mais.
Ils se foutent pas mal sur la gueule entre eux non plus, donc on a peut-être plus de bonne volonté de vivre en paix peut-être aussi chez les hommes parfois que chez certains animaux, donc il faut pas tomber dans la caricature.
Pour les animaux, vous n'avez que compassion.
Je sais pas si compassion c'est le bon mot, j'ai en tout cas beaucoup d'intérêt, et puis ça me fascine, l'évolution me fascine. C'est est-ce que les girafes ont survécu parce qu'elles avaient un long cou, elles ont pu atteindre les plus hautes feuilles des acacias et elles ont pu survivre grâce à ce long cou, ou est-ce que les girafes de génération en génération ont tendu le cou et finalement ce cou s'est développé? C'est des questions, on n'a pas vraiment encore répondu à ça, on sait pas encore si c'est Darwin ou Lamarck qui avait raison, mais tout ça nous renvoie à des choses très très profondes, et puis en tout cas c'est passionnant, et puis les inventions de la nature, c'est hallucinant. Vous n'êtes pas étonné quand vous regardez un documentaire animalier, vous n'êtes pas étonné de découvrir des animaux dont vous n'avez jamais entendu parler, et qui font des choses incroyables. Il y en a qui font de la lumière, il y en a qui changent de couleur, il y en a qui font de l'électricité, il y en a qui ont une canne à pêche sur la tête pour attirer les poissons et pour les bouffer.
Vivre en ermite dans un parc au Kenya par exemple.
En ermite, j'aurais du mal parce que je vois mes enfants. Donc en ermite, et puis à qui je vais dire des vannes au gnou.
Au gnou.
Mais en tout cas, je suis pour l'instant, j'ai une connaissance livresque de la zoologie et je suis pas du tout un homme de terrain parce que j'ai pas le temps. Mais j'aimerais bien un jour aller voir tout ça sur le terrain.
Vous prendrez le temps.
Oui, je pense qu'avec l'âge, quand j'aurai fait un peu ce que j'ai à faire, j'aurai peut-être plus de temps.
Vous avez proposé aux chaînes du service public une émission sur les animaux qui n'a absolument rien à voir avec 30 millions d'amis.
Non, parce que je propose pas grand-chose aux chaînes du service public, mais en tout cas, j'ai un projet sur la chaîne Animaux, oui.
Ah ah.
Mais bon, et puis je devais aussi faire des commentaires pour National Geographic, là, et puis ça s'est pas fait au dernier moment parce que j'avais la pièce en même temps et qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est sûr que je vais me faire plaisir de plus en plus et puis aller dans ce domaine régulièrement, oui.
Vous savez que tout ce qu'on raconte là, c'est très très mauvais pour votre image de rebelle.
Oui, j'en ai conscience.
Vous avez conscience, hein.
Mais je glisserai bien deux, trois insanités vers la fin de l'interview pour rappeler qui
oh,
je suis.
Oh, bah voilà, ça, j'en suis persuadée. Alors allons-y. Quand on est payé pour déconner, Laurent Baffy, est-ce qu'on trouve son pesant de reconnaissance?
Mais je vais vous dire, la reconnaissance, je l'ai ailleurs. Si je ne faisais que ça, que bonheur de plateau, ce serait pour moi réducteur. Et j'aurais des problèmes peut-être de reconnaissance. Mais comme mon vrai boulot, c'est auteur, et comme je veux faire des films, et puis...
C'est le premier, c'est le vrai.
Bah oui, j'ai ma carte de la SACD depuis 25 ans, j'ai vécu de ça, c'est mon vrai métier, mais le public ne le sait pas. Parce que c'est quand on écrit, on est seul chez soi.
Et... Alors vous battez en quelque sorte pour que le public l'apprenne, enfin.
Tout. j'en ai rien à foutre, je me bats pas du tout.
Vous avez envie que vos pièces marchent.
Oui, non, mais je travaille. La seule réponse à ça, c'est le travail. Mais que tout le monde se dise, vous savez que Laurent Baffie est auteur, c'est ridicule. Puis auteur, c'est en poulet, c'est... En plus,
ils
mettent auteur dramatique. Mais il faut rien dire. Il faut que moi, je travaille et que je fasse du bon travail. Et c'est pas la peine de dire, regardez, je sais écrire. Hein. Ça se saura un jour. Si les gens aiment mes pièces, ça se saura. Mais pour l'instant, je n'ai fait que deux pièces. Je n'ai fait qu'un film. Je n'ai pas encore fait mon one-man show. Donc je pense que je vais tracer mon sillon et que si Dieu me prête vie, dans quelques années, les gens verront que mon vrai boulot, c'est là. C'est ça, c'est pas de dire trois conneries à Miss France.
Qu'est-ce que vous avez envie d'être à la fin de votre vie?
Professionnellement, un auteur, de laisser une œuvre, de laisser, si je pouvais laisser deux, trois bonnes pièces, deux, trois bons films et deux, trois bons one-man show. Je dis deux, trois, mais je pense plus, bien évidemment. Moi, ça m'irait parfaitement.
On est à une poignée d'heures de 2006. Vous êtes assis devant un micro. Vous allez reposer le gobelet de thé. Je vous laisse la parole.
Pourquoi? Pour les vœux?
Pour ce que vous voulez. Une espèce de happening radiophonique.
Je déteste les vœux. Je trouve ça insupportable. Tous les gens qui vous envoient un truc, enfin maintenant c'est les textos, c'est plus pratique, mais bonne
année. Alors justement, puisque vous haïssez les vœux, on écarte ça. Donc qu'est-ce qu'il serait important et intéressant de dire, là, dans l'immédiat?
Vous voulez un message? Alors peut-être un message pour l'environnement, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout complètement. Je comprends pas que les gens soient pas plus alarmés, surtout ceux qui ont des enfants. Je comprends pas qu'il y ait des choses plus radicales pour que la banlieue se fasse entendre. Ils ont brûlé des voitures. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est pas bon pour l'environnement. Je voudrais souligner que de brûler une voiture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens prennent conscience qu'on va dans le mur? Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures radicales dès demain, quoi. Je pense que dès demain, il faut arrêter les voitures, il faut arrêter les pétroliers géants, il faut arrêter plein de choses. Mais non, je pense qu'il va falloir des grosses catastrophes avant qu'on prenne des mesures. Et puis surtout, il faut qu'on continue à vendre tout ce que les gens ont à vendre. Donc, silence.
Je vous dis à très vite, Laurent Baffie. Toc Toc, c'est au Palais Royal, à Paris.
Merci.